Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Diaye et Claire Morin-Jebourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, au sommaire ce soir.
Au moins 17 morts et 11 disparus au Niger après une nouvelle attaque près de Tongo-Tongo, non loin de la frontière avec le Mali.
S'attaque à des églises et aussi à tout ce qui est symbole de l'État. Et on constate sur le terrain que le G5 Sahel n'est pas opérationnel. Donc ce groupe profite de ce tâtonnement aussi.
Au Soudan, le conseil militaire et des représentants des manifestants sont d'accord sur une transition de 3 ans et poursuivent les discussions.
La tension monte entre Téhéran et Washington qui a demandé aux Américains non essentiels de quitter l'Irak.
La ville de San Francisco, en Californie, interdit l'utilisation d'outils de reconnaissance faciale par la police.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Au Niger, au moins 17 soldats sont morts et 6 blessés hier dans une embuscade près du village de Tongo-Tongo, non loin de la frontière avec le Mali. 11 autres soldats manquent à l'appel. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
Le communiqué officiel du ministère de la Défense nationale indique que c'est aux environs de 8 heures hier mardi qu'une colonne des forces armées nigériennes en mouvement a été prise à partie par des terroristes lourdement armés avec des engins explosifs improvisés. Le bilan est de 17 soldats tués, 6 blessés et 11 autres portés disparus. Avant l'arrivée des renforts, les assaillants ont pu s'exfiltrer vers la frontière malienne. Des opérations de poursuite ont aussitôt été engagées avec l'appui des partenaires notamment français. Les faits se sont déroulés pas loin du village de Tongo-Tongo où, en octobre 2017, 4 soldats américains et un Nigérien ont été tués dans des conditions presque similaires. Cette partie du territoire nigérien qui fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso connaît depuis quelques jours un regain d'attaques terroristes. Lundi dernier, 3 assauts ont été menés par des hommes armés à Mangaise d'abord, à la prison de haute sécurité de Koutoukale ensuite et tard dans la nuit contre une église du village de Dolbel dont le curé a été gravement blessé par les assaillants qui sont repartis avec son véhicule. Du fait de la multiplication des attaques dans la zone qui est depuis l'année dernière placée sous état d'urgence par le gouvernement nigérien, les agences onusiennes ont suspendu jusqu'à nouvel ordre leur mission de terrain. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, se rendra en RDC et au Tchad les 20 et 21 mai prochains. Monsieur Le Drian devrait annoncer un soutien accru de la France dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ainsi qu'une plus grande coopération sur le climat et la biodiversité, ainsi que dans le domaine de la francophonie. La RDC est le premier pays francophone du monde avec une population de 80 millions d'habitants.
Au Burundi, l'église adventiste du 7e jour a dénoncé le harcèlement qu'elle subit de la part du gouvernement. Selon son président, qui vit aux États-Unis, 2 pasteurs et 21 fidèles ont été arrêtés depuis début mai.
Au Soudan, le conseil militaire et le mouvement de contestation abordent ce soir la phase finale de leur dialogue. Ils essaient de s'accorder rapidement sur la composition de conseils souverains et se sont déjà mis d'accord sur la durée de la transition à 3 ans. Nous faisons le point avec Ekia Badou.
En 2 jours, les 2 parties ont progressé sur la mise en place des institutions devant préparer le transfert de tous les pouvoirs à une autorité civile. C'est la principale demande des manifestants qui campent devant le quartier général de l'armée à Khartoum depuis le 6 avril. Les militaires et les meneurs de la contestation ont identifié, dès la reprise de leur discussion lundi, les institutions de la transition, dont un conseil souverain, un cabinet et une assemblée législative. Mardi, les 2 camps sont parvenus à un accord de compromis fixant à 3 ans la durée de la phase de transition. La contestation réclamait une période de 4 ans alors que le conseil militaire proposait 2 ans. Les 6 premiers mois de cette période de transition devraient être consacrés à la conclusion d'accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan.
Le président sud-soudanais Salva Kiir a mis en garde contre toute tentative violente de le renverser. Ces dernières semaines, un groupe se faisant appeler Red Card Movement tente de mobiliser sur les réseaux sociaux et appelle au départ du président Kiir. Ce mouvement appelle à une manifestation pour demain jeudi.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa veut rassurer les milieux d'affaires quelques jours après la victoire de l'ANC aux élections législatives. Il a promis d'accélérer les réformes pour relancer l'économie et sauver la compagnie nationale d'électricité.
En Algérie, au moins 24 policiers ont été blessés lors d'une manifestation de chômeurs à Tenerkouk, dans le centre du pays. Cela fait plusieurs années que les habitants de cette région riche en hydrocarbures dénoncent l'absence de développement et le manque d'emplois.
Au Maroc, plus de la moitié des femmes ont subi une forme de violence, selon une enquête officielle publiée aujourd'hui par le ministère de la Famille. Plus de 90% des femmes marocaines n'ont jamais porté plainte. Selon ce rapport, les femmes âgées de 25 à 29 ans sont les plus exposées et les violences conjugales sont les plus fréquentes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont rappelé une partie de leur personnel diplomatique non essentiel en Irak en pleine escalade des tensions avec l'Iran voisin. Une situation qui a poussé d'autres pays à prendre des mesures de précaution. Nathalie Barche.
Dans une alerte de sécurité, le département d'État, en raison du flux de menaces dites accrues, a donné l'ordre de partir au personnel non essentiel de l'ambassade à Bagdad et du consulat à Erbil, au Kurdistan irakien. Les services de visa dans les deux postes sont temporairement suspendus. Peu après cette décision, les armées allemandes et néerlandaises ont suspendu leurs opérations de formation en Irak. Une alerte de l'ambassade des États-Unis au Liban appelle aussi les Américains à la vigilance face aux tensions accrues dans la région. Washington a fait monter la pression ces derniers jours et a renforcé sa présence militaire dans le Golfe, faisant état de préparatifs iraniens d'attaques imminentes contre des intérêts américains. Le Kremlin s'est dit inquiet de l'escalade et a accusé Washington de provoquer Téhéran, alors que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a assuré mardi à Sotchi que les États-Unis ne cherchaient pas une guerre avec l'Iran.
L'Iran, qui a affirmé qu'elle sortirait la tête haute de l'épisode actuel de tension avec les États-Unis, le ministre de la Défense iranien a déclaré que Washington et son allié israélien connaîtront le goût amer de la défaite, je les cite. La fière nation de la République islamique d'Iran sortira de cette passe délicate la tête haute, a indiqué le général de brigade iranien Amir Hatami.
Des milliers de Palestiniens ont manifesté ce mercredi dans la bande de Gaza et en Cisjordanie lors de la commémoration annuelle de la Nakba ou la catastrophe. La Nakba représente à leurs yeux la création d'Israël en 1948. Des milliers de personnes se sont réunies en différents points de l'enclave le long de la barrière frontalière lourdement gardée par l'armée israélienne.
Un Israélien a été arrêté pour avoir craché sur l'ambassadeur polonais en Israël sur fond de relations tendues entre les deux pays. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a condamné sur Twitter une agression qu'il qualifie de raciste. La Pologne a annoncé hier avoir annulé une visite de responsables israéliens.
San Francisco, capitale des hautes technologies, est devenue la première ville américaine à bannir l'utilisation d'outils de reconnaissance faciale par la police et d'autres agences du gouvernement local en raison des inquiétudes croissantes pour la protection de la vie privée. Les détails avec Irénée Hermanoumbo.
8 des 9 membres du conseil municipal de San Francisco se sont prononcés pour la nouvelle réglementation. Elle doit faire l'objet d'un vote de procédure la semaine prochaine avec peu de probabilité de changement. Pour les partisans de ce texte, la technologie de reconnaissance faciale met en danger les droits et les libertés civiques. Cette technologie va exacerber l'injustice raciale et menacer notre capacité à vivre libre de toute surveillance permanente du gouvernement, indique l'élu Aaron Peskin. L'interdiction ne concerne pas cependant les aéroports ni les sites régulés par les autorités fédérales. Elle s'inscrit dans un plus vaste cadre de contrôle des systèmes de surveillance avec des conditions plus strictes et la nécessité d'une approbation préalable du conseil pour les agences municipales. Une interdiction similaire est envisagée à Auckland, près de San Francisco, cette ville qui abrite les géants des nouvelles technologies comme Facebook, Twitter, Uber ou Alphabet, la maison mère de Google.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Les autorités de régulation de la filière cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana vont rencontrer le mois prochain les broyeurs et acheteurs afin d'établir un prix plancher commun. Selon l'agence Bloomberg, la fixation de ce prix devrait permettre de réduire les disparités dans la chaîne de valeur du cacao. L'industrie globale génère 120 milliards de dollars par an, mais les exploitants du cacao ne reçoivent que 2% de cette manne financière. Les recettes du secteur touristique en Tunisie se sont établies à 369 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de cette année. C'est une hausse de 36,4% par rapport à la même période de 2018. Cette hausse s'explique par l'effet du taux de change. Le dinar tunisien s'est déprécié de 18,5% face au dollar américain et de 10,5% par rapport à l'euro entre avril 2018 et avril 2019. Pour terminer, le déficit commercial de l'Algérie s'est établi à 1,37 milliard de dollars au premier trimestre de cette année contre 1,23 milliard durant la même période en 2018, selon des données du Centre national de l'informatique et des statistiques relevant des douanes algériennes. Les exportations ont baissé de 2,38% alors que les importations ont connu une dégringolade de 0,83%.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le Nigeria jouera le Ghana en demi-finale du tournoi UFOAB Dames.
Oui, dans le duel des deux équipes qualifiées avant la dernière journée et pour la suprématie du groupe B, les Super Falcons ont tenu leur rang s'imposant 2-0 face au Mali avec des buts de Rafia et Uchenna Kanu qui inscrivait son 9e but de la compétition. Le Nigeria termine ainsi leader de sa poule avec 22 buts inscrits et s'offre une finale avant la lettre contre le Ghana en demi. Le Mali jouera la Côte d'Ivoire. Les demi-finales sont prévues demain à Abidjan.
Ligue africaine des champions, l'Espérance de Tunis redoute l'arbitrage et fait pression sur la CAF.
Oui, le champion en titre a envoyé un courrier à la Confédération africaine de football lui demandant de désigner un arbitre compétent pour la finale contre le Wydad de Casablanca. D'après la presse tunisienne, l'Espérance craint que la CAF nomme un arbitre qui pourrait affecter le résultat du match aller qui se disputera au Maroc. La formation espérantiste a émis des réserves contre le Zambien Jenny Sikadzoué et le Gambien Bakary Gassama à cause de leur antécédent. Le 24 mai, le Wydad accueille les espérantistes au complexe Moulay Abdellah de Rabat pour la manche aller avant le retour au stade de Rades le 31 mai.
En Europe, Pep Guardiola désigné entraîneur de l'année en Premier League.
Oui, le technicien catalan de Manchester City a été élu meilleur entraîneur devant Jurgen Klopp de Liverpool et Mauricio Pochettino qui a conduit Tottenham à sa première finale de Ligue des Champions. Les Citizens ont conservé leur titre de champion de la Premier League à la dernière journée en gardant un petit point d'avance sur Liverpool dans une fin de championnat à suspense. Manchester City et Pep Guardiola ont également remporté la Coupe de la Ligue et sont en course pour ce qui serait le premier triplé de l'histoire du foot anglais. Ils affronteront Watford en finale de la Coupe d'Angleterre ce samedi à Wembley.
Ici, en NBA, Golden State a bien débuté sa finale de conférence Ouest.
Et oui, le double champion NBA en titre a fait une démonstration de force face à Portland, dominé 116 à 94. Les Warriors mènent une victoire à zéro et peuvent doubler la mise demain, malgré l'absence de leur meilleur marqueur Kevin Durant, toujours blessé à un mollet. Stephen Curry et ses coéquipiers n'ont jamais été inquiétés par les Blazers. Le vainqueur de cette finale de conférence sera opposé à Milwaukee ou à Toronto, adversaire dans la finale de conférence Est qui débute ce soir.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Diaye, Clermont et Jebour, toujours avec vous pour la seconde partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place au dossier du jour.
La région de Tillabéri au Niger, de nouveau le théâtre d'une attaque. 17 soldats nigériens ont été tués, ont été tués hier dans un assaut près du village de Tongo Tongo, près de la frontière avec le Mali. Un bilan qui pourrait s'alourdir puisque 11 soldats sont portés disparus. Pour en savoir plus, Morgane Guériec a joint Moussa Aksar, consultant sur les questions de sécurité au Niger.
Selon nos informations recoupées, et ce sont des éléments du détachement de Walam qui était à la poursuite des assaillants qui ont attaqué la veille la prison civile de haute sécurité de Kout-Kale, qui se trouve à environ 30 km de Niamey, qui sont tombés sur cette embuscade tendue probablement par des éléments terroristes de El Sahraoui, dont c'est la zone de prédilection qui va de Tongo Tongo à la frontière malienne et burkinabé, lié à Al-Qaïda au Maghreb.
Donc beaucoup d'attaques ont eu lieu dans cette région de Tillabéri. Des Américains avaient été tués dans une embuscade en 2017. Plus récemment, des églises ont été attaquées dans cette zone, au Niger et au Burkina. On a eu également cette attaque contre une prison du Niger que vous avez mentionnée. Comment expliquer cette accélération des attaques ?
Vous savez, nous sommes dans un mois du carême où il faut s'attendre à ces attaques. Et le groupe terroriste profite de ce mois pour attaquer les positions de l'armée. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'ils vont plus loin. Ils s'attaquent à des églises et aussi à tout ce qui est symbole de l'État. Et on constate sur le terrain que le G5 Sahel n'est pas opérationnel. Donc ce groupe profite de cet tâtonnement aussi pour faire une diversion d'abord vers le Burkina, ensuite venir attaquer les positions de l'armée nigérienne. Et maintenant, ils vont même en profondeur dans des zones plus reculées, notamment le Bénin, et aller au Burkina, le Togo aussi.
Dans cette zone, on a les armées nationales, mais on a aussi plusieurs forces internationales qui sont déployées. Les Américains ont des drones au Niger, on a Barkhane, G5 Sahel que vous avez mentionné, la MINUSMA au Mali. Alors comment expliquer qu'on n'arrive pas à endiguer le phénomène avec toutes ces forces en présence ?
On peut dire qu'il y a un problème de coordination d'abord de ces forces-là. Aujourd'hui, je peux vous dire, avec l'attaque de Tongo Tongo, déjà, on me parle d'une action conjointe de Barkhane et aussi des forces des États-Unis stationnées au Niger. Toutes ces forces n'ont pas une bonne coordination. Et deuxièmement, vous avez le manque de renseignements humains, vu la pauvreté dans cette zone-là, parce qu'il y a l'absence de l'État. Ça fait plusieurs années que ces zones ont été délaissées aux groupes armés et ceux qui se sont implantés. Tant qu'on n'a pas les renseignements humains, tant qu'on n'arrive pas à sensibiliser les populations, tant qu'on ne s'appuie pas sur les chefs traditionnels, tant qu'on ne s'appuie pas sur les ulémas qui pratiquent un islam modéré, on ne peut pas endiguer ce problème-là. Et c'est là la faiblesse de ces États-là, du Mali, du Niger et du Burkina.
C'était Moussa Aksar, consultant sur les questions de sécurité au Niger.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La troisième conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest se tient présentement à Ouagadougou. Cette rencontre qui accueille 150 cardinaux, archevêques et évêques de la sous-région s'est ouverte hier dans un contexte d'attaques terroristes visant la communauté chrétienne. Le compte-rendu de Issa Napon à Ouagadougou.
Environ 150 cardinaux, archevêques, évêques, secrétaires généraux d'une dizaine de conférences épiscopales de la sous-région ouest-africaine participent à cette troisième assemblée de Ouagadougou. Le clergé, qui a la ferme volonté de redonner un second souffle à l'action de l'Église dans la sous-région, veut, à travers cette thématique du développement humain intégral, relever un certain nombre de défis à travers l'Église famille de Dieu. Le cardinal Philippe Draogo, archevêque métropolitain de la ville de Ouagadougou.
Tous les évêques de l'Afrique de l'Ouest veulent contribuer à relever des défis majeurs, prioritaires et urgents des populations confiées à leur sollicitude pastorale.
Et comme il fallait s'y attendre, l'actualité liée aux attaques terroristes contre les symboles religieux et les membres des communautés religieuses s'est invitée dans la rencontre. Monseigneur Paul Ouedraogo est le président de la conférence épiscopale Burkina Faso-Niger.
Nous sommes là pour vivre Église, penser Église et voir ensemble comment redonner du souffle à notre action missionnaire. Vous conviendrez avec moi que l'actualité de ces derniers jours ne fait pas du Burkina Faso une destination de premier choix. Et ce, d'autant plus que dimanche dernier, une attaque terroriste a visé expressément une communauté catholique en pleine célébration eucharistique, faisant six martyrs. Et hier encore, dans le diocèse de Waïguya, une attaque avec 4 victimes et la destruction de la statue de la Vierge Marie. Au Niger, à Dolbel, une attaque avec le curé blessé ou à la main et à la jambe où il a reçu des balles. Tout ceci dit que notre région ouest-africaine est fortement troublée.
Un défi sécuritaire sur lequel a insisté le porte-parole du président de la République, le ministre Siméon Sawadogo, en charge de la cohésion sociale.
Ces attaques terroristes inqualifiables, outre les nombreuses victimes qu'elles font, ont pour corollaire des risques de conflits intercommunautaires, de repli identitaire, d'activation de relents religieux, en somme, de fragilisation du tissu social. Le gouvernement du Burkina Faso examinera avec le plus grand intérêt les conclusions de cette rencontre et surtout vos propositions et contributions à la promotion de la paix et du développement humain durable dans les pays de l'espace ouest-africain.
Plusieurs personnalités se sont succédées pour exprimer l'importance de la mise en place du système et environnement qui redonne sa dignité à l'homme et un avenir à la jeunesse africaine.
Pour les siècles des siècles, amen.
Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, la situation sécuritaire de plus en plus inquiétante au Burkina Faso. Dans le nord du pays, des églises et des responsables religieux sont désormais la cible d'attaques attribuées à des groupes djihadistes. Que sait-on de leur identité? Que veulent-ils et pourquoi ce changement de mode de fonctionnement? Quelle riposte contre le terrorisme dans ce pays? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h, en temps universel.
Au Bénin, la décrispation politique tarde à venir après les violences post-électorales qui ont fait 4 morts. La nouvelle Assemblée nationale sera installée demain. La sécurité a été renforcée autour du palais des gouverneurs à Porto-Novo pendant que l'opposition dénonce l'intimidation et l'assignation à résidence, selon elle, de l'ancien président Yayi Boni. Plus de détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
L'opposition pointe du doigt le gouvernement dans la détérioration du climat politique. Eric Rondeté dénonce l'isolement de l'ancien chef de l'État Yayi Boni, qui selon lui serait privé de toute liberté.
Depuis une dizaine de jours, il est soumis à une torture morale en permanence, un peu comme pour contribuer à le détraquer moralement. Il lui est difficile, il lui est impossible ou refusé de recevoir son médecin, il lui est refusé de recevoir la visite de ses amis, de ses camarades de lutte, de ses collaborateurs. Ce sont là des exagérations, de la provocation, de la torture qui ne peut pas continuer.
Les partis de l'opposition appellent à un dialogue inclusif pour le retour à l'apaisement. C'est le cas des Forces Corées pour le développement du Bénin, du professeur Soumanou Toleba, qui voit de mauvais œil les fractions nord-sud.
Notre parti ne souhaite pas qu'on soit divisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. On demande au nom du parti que le président de la République, M. Talon, puisse voir dans quelle mesure il puisse appeler l'ensemble de la classe politique nationale à une table de négociation de façon que les échanges inclusifs puissent nous permettre de parler plus ou moins de la même voix pour qu'on puisse aller de l'avant.
Candide Azanayi, ancien ministre de la Défense du gouvernement de Patrice Talon, aujourd'hui membre de l'opposition, n'est pas de cet avis.
Je ne suis dans aucune compromission que nous compare la Constitution. C'est faire échec à l'autorité illégitime. La résistance ne doit s'arrêter que lorsque Patrice Talon échoue. C'est tout.
Patrice Talon, jeudi soir, s'adressera à ses concitoyens une sortie médiatique très attendue, surtout après les différentes médiations menées pour un retour au calme. De Cotonou, c'est notre flux à Dandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Comment lutter contre les crimes transnationaux en Afrique de l'Ouest? La question fait l'objet d'une réunion depuis hier à Abuja des chefs de services de sécurité de la CEDEAO. Le compte-rendu de Gilbert Tamba depuis la capitale fédérale nigériane.
C'est sous une forte présence de sécurité que se déroule la rencontre des chefs de services de sécurité de la sous-région ouest-africaine à Abuja. Objectif, galvaniser les efforts multinationaux en vue de trouver une solution durable aux crimes transnationaux, échanger et partager des informations et collaborer entre eux dans la lutte contre la criminalité et les menaces à la sécurité en Afrique de l'Ouest. Le colonel Francis Béanzin est le commissaire aux affaires politiques de la paix et de la sécurité à la CEDEAO.
Le blanchiment de l'argent sale, le financement du terrorisme, ça déstabilise les États. Et vous savez que les terroristes n'ont d'égard pour personne. Ils sont déterminés à mourir et ils acceptent d'aller mourir le plus souvent pour rien.
Les défis sécuritaires à relever au sein de l'espace CEDEAO sont multiples et multiformes, notamment les divers trafics de la drogue, d'êtres humains, des véhicules volés. La région est aussi confrontée à d'autres formes de criminalité transnationale organisée, la piraterie à mer, le vol à main armée et naturellement le terrorisme. Le colonel Abdourahmane Dieng est chef de la division sécurité régionale et secrétaire permanent du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest.
Il n'y a aucun État seul qui peut s'occuper de crimes transnationaux parce que ça dépasse les frontières. Et donc il faut nécessairement que les services de sécurité de l'ensemble des États de la sous-région se mettent ensemble afin de ne pas laisser de poche quelque part. Il ne faut pas qu'un État soit faible. Tout le monde parle le même langage afin qu'on puisse avoir une solution concertée, intégrée et efficace pour la sécurité de la région.
Les débats devaient donc permettre de revoir pays par pays quelles sont les forces et les faiblesses, mais aussi les efforts communs pour mieux lutter contre les crimes organisés. Tupusiba Albert est le directeur général adjoint des services de police de la Guinée.
Surtout la Guinée avec les pays limitrophes. Aujourd'hui, nous demandons simplement la formation d'abord de nos hommes et ensuite l'équipement. Lorsque nous disposons de ces différents éléments, je pense que nous pouvons mettre en place un moyen efficace de lutte contre le terrorisme.
Le comité des chefs de police d'Afrique de l'Ouest, WAPCO, est une structure de la CEDEAO conçue pour réunir les chefs de police des États membres de la CEDEAO. Et cela fait 5 ans que les responsables des services de sécurité de la région ne se sont pas vus. En dépit de quelques progrès réalisés en Afrique de l'Ouest, notamment en matière de transition démocratique pacifique, la situation sécuritaire dans la région demeure préoccupante. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Justin Twaits. Au micro, Claire Moragibour et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, on se le site internet voafrique.com et bien sûr notre page Facebook. Très bonne soirée à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.